Rebonjour à tous pour les deux temps de cet après-midi. Alors nous allons commencer par une table ronde qui va venir en écho aux propos qui ont été tenus ce matin avec un certain nombre de participantes que je vais vous présenter immédiatement. Donc Karine Vallière qui est agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles et qui vient de la ville de Bruay-la-Bussière. Ensuite, Céline Baudelet, qui est professeure des écoles dans l'Académie de Lille. Annie Cerf, qui est inspectrice de l'éducation nationale dans l'Académie de Lille également. Valérie Bouquillon, conseillère pédagogique départementale maternelle pour l'Académie de Lille. Et Carole Engalé-Miano, vous êtes thérapeute familiale, formatrice au Centre national de la fonction publique territoriale, j'imagine, à Lille aussi. Voilà. Et cette table ronde sera animée par notre collègue Evelyne Collin, qui est inspectrice de l'éducation nationale avec la mission maternelle dans l'Académie de Versailles. Voilà, je vous laisse. Evelyne, tu as besoin du micro.
Donc, nous disposons d'un peu plus d'une heure pour ce que nous avons appelé une table ronde, même si nous sommes tous alignés en rang d'oignon devant vous, avec l'idée de donner un peu de corps à ce que Thierry Vasse a développé devant nous ce matin autour de la mise en œuvre d'une formation conjointe enseignant et ATSEM. Une expérience très intéressante a eu lieu sur l'Académie de Lille l'année précédente et je crois encore l'année d'avant, avec un certain nombre d'éléments de contenu, de mise en œuvre que nous allons pouvoir développer. Et c'est de ça dont nous aimerions échanger cet après-midi pour à la fois construire une culture commune et commencer à s'interroger. Donc, Académie de Lille, je commence par vous, chers collègues. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette formation conjointe, la question que nous nous sommes posée, parce que c'est la première qu'on se pose quand on est UN, c'est comment penser le pilotage au niveau départemental, ça c'est bien la question des IUN maternelles, en pensant aux enjeux et aux partenaires et aux modalités différenciées. Donc comment est-ce que vous avez réglé ce problème-là à Lille?
Merci Evelyne. Alors, formation départementale, pour répondre à la question d'Evelyne, elle évoque le pilotage départemental, mais je souhaite dire que nous travaillons en pilotage académique. Sur Lille, l'Académie de Lille est constituée de deux départements, le Pas-de-Calais et le Nord, et donc ce sont des profils de formation, un pilotage de formation qui a lieu au niveau académique, avec ensuite des déclinaisons dans les deux départements. Donc je voulais saluer Sylvie Mona qui travaille avec moi, qui est UNEN maternelle, elle est là-bas, sur Lille, donc dans le département du Nord. Moi je suis UN maternelle dans le département du Pas-de-Calais et nous travaillons ensemble avec le CNFPT, donc nous avons fait ce choix de formation conjointe avec le CNFPT, l'agence de Lille, et nous avons donc travaillé en amont pour essayer d'anticiper un petit peu tous ces freins que Thierry Vasse a évoqué ce matin. Il a parlé des freins au niveau de l'organisation. Vous savez tous que quand on travaille avec d'autres institutions, on travaille dans des temporalités différentes. On a à prendre en compte nos années scolaires, les années civiles qui régissent les formations du CNFPT. Donc ça nous crée des contraintes, bien évidemment. Nous avons à prendre en compte également l'organisation des formations du CNFPT, donc les formatrices, et puis nos organisations à nous qui sont basées sur l'organisation avec le conseiller pédagogique départemental, des conseillères pédagogiques de circonscription, et donc à penser toute cette organisation qui va nous permettre, en partant d'une grosse académie comme celle de Lille, d'arriver à toucher les territoires. Parce que la problématique est bien là, il faut qu'on arrive à toucher les écoles, donc les territoires de proximité. Donc nous avons agi en appui de la convention de partenariat qui avait été signée entre la DGESCO et le CNFPT en 2015, et nous avons d'abord constitué une convention de coopération régionale signée par le recteur et le directeur du CNFPT pour cadrer nos actions et nous donner, l'accord du recteur pour commencer à démarcher des territoires pour essayer de mettre en place ces formations. Donc nous souhaitions proposer ce cadre bien pensé, à la fois en termes d'organisation administrative, mais aussi de contenu de formation. tout en essayant de, comment dire, de prendre en compte aussi les besoins des territoires. Donc à la fois un cadrage assez souple, mais quand même qui répondait à ce qui a été dit ce matin, une identification des points qu'il fallait absolument traiter, mais une déclinaison territoriale en fonction des besoins des différents secteurs, des différents territoires. Donc nous avons constitué un groupe de pilotage académique qui a commencé à réfléchir à une charte, c'est-à-dire une formation conjointe avec le CNFPT, à quoi doit-elle répondre? Donc quelques principes, donc je vous en donne rapidement quelques-uns. Cette action de formation devrait répondre à une problématique, c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien, on ne fait pas une formation comme ça qui serait descendante, c'est une formation qui répond à une problématique de terrain, ce qui veut dire qu'il faut que les formatrices, et elles vous l'expliqueront ensuite, s'adaptent aux besoins du terrain. C'est une formation qui est une étape. Nous avons envisagé ces formations conjointes dans un parcours de formation. C'est ce qui a été évoqué ce matin. Il y a des moments de formation professionnelle pour les professeurs des écoles, pour les personnels, les agents territoriaux, pour des éducatrices de jeunes enfants, éducatrices, éducateurs. Mais à un moment donné, il y a un temps de formation conjoint. C'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble, on partage les cadres, on a une meilleure connaissance de chacun. Et puis à d'autres moments, ensuite, on aura aussi encore des temps disjoints. Ce qui veut dire aussi que les collectivités, notamment, s'engagent à poursuivre le parcours de formation avec le CNFPT lorsque la formation conjointe est terminée. Nous souhaitions qu'elle s'intéresse au travail réel de chacun, d'où la réponse aux besoins, et puis l'expression des moments de formation où on prendra en compte l'expression des cadres de travail de chacun. Qu'elle intègre également la découverte du métier des autres, parce qu'on s'est rendu compte dans les formations que parfois les obstacles, les quelques difficultés naissaient d'une mauvaise connaissance des cadres de travail de chacun. Elle devait permettre de construire également des espaces de parole partagés. Dans les formations, nous prenons soin, je pense que les formatrices vous l'expliciteront bien, à ce que chacun ait le même temps de parole, on est à égalité et dans les formations, il n'y a pas de lien hiérarchique. Les agents, par exemple, sont présents, mais leur directeur de service n'est pas présent dans les formations. C'est la même chose pour les professeurs des écoles. Les inspecteurs n'assistent pas à la formation que nous proposons, même s'ils sont informés des contenus, bien évidemment, et puis de ce qui reste à traiter après la formation. Et elle invite à construire des pratiques cohérentes et complémentaires. La cohérence, c'est ce qui a été évoqué ce matin par M. Vass, hein, c'est-à-dire comment, en réfléchissant au cadre de chacun, on travaille dans une cohérence pour que l'enfant repère bien ce que l'adulte lui demande et ne repère pas trop de rupture. Et puis on travaille dans la complémentarité, c'est-à-dire que les deux métiers sont différents, mais à un moment donné, ils se retrouvent pour mettre en place certaines continuités. Donc une fois que cette charte a été élaborée, nous avons constitué un groupe de travail qui a travaillé sur des contenus, des synopsis, des petits synopsis de formation, suffisamment précis pour ne pas oublier d'investir certains contenus, mais en même temps assez souple pour permettre de répondre aux besoins. Vous aurez des exemples tout à l'heure. Et donc, une fois que ces cadres ont été élaborés, les IEN maternelles de chaque département se rendent auprès des collègues IEN et essayent de repérer des territoires où les formations pourraient se mettre en place. C'est à ce moment-là que l'IEN de circonscription prend la main sur le contact avec la collectivité territoriale. Et une fois que les deux parties sont d'accord, remonte une demande de formation au CNFPT, puisque la formation est gérée par le CNFPT. Nous, Éducation nationale, nous gérons évidemment les ordres de mission et toute la gestion administrative des déplacements des enseignants. Donc là, on commence déjà à donner la main au territoire. Donc IEN de circonscription, directeur général des services ou les élus territoriaux. Et puis comment dépasser? C'est-à-dire que le territoire se met d'accord pour exprimer des besoins de formation par rapport à la fiche type qui a été fournie. C'est à ce moment-là que les formatrices entrent en jeu. Elles prennent contact avec les territoires, elles élaborent la formation. Après, elles la mettent en œuvre et puis il y a un retour. Donc au niveau académique, nous faisons une réunion académique de bilan chaque année où chacun est amené à s'exprimer sur le ressenti sur la formation, les besoins qui resteraient non couverts et les suites éventuelles à donner à ces formations. Donc en termes de pilotage, on a une réunion en début d'année pour identifier les territoires, poser le cadre, expliciter pourquoi il y a cette charte, pourquoi on travaille de cette façon. Et puis à la fin, une réunion de bilan. Et entre-temps, ce sont les territoires qui prennent la main et les formatrices qui interviennent. Voilà, donc nos formations, elles regroupent 20 participants sur chaque formation, moitié-moitié, 10 enseignants, 10 agents territoriaux. Elles durent 10 heures, donc on essaye au mieux de proposer 6 heures sur une journée. Et puis un retour en analyse de pratique, une fois que les personnes ont eu le temps d'expérimenter les contenus de formation qui ont été apportés. Donc ça peut être 2 fois 2 heures ou 1 fois 3 heures. On est sur un contenu de 9 à 10 heures. Et le CNFPT prend en compte également les temps de préparation et les temps de retour sur formation pour les contrats, hein, la rémunération des intervenants du CNFPT. Pour répondre à la question qui était posée ce matin, pour nous, c'est le CNFPT qui prend tout en charge. À ce niveau-là, hein, on ne nous demande rien, on ne nous facture rien. Par contre, nous mettons en jeu les compétences de notre formatrice, le temps de travail des enseignants, donc les moyens de remplacement. Donc, quelquefois, on pourrait entendre dire l'éducation nationale ne met pas d'espèces sonnantes et trébuchantes sur la table, mais si, hein, on a quand même le temps de travail des enseignants, le temps de travail des formateurs et des pilotes que nous sommes. Hein. Donc on a bien une formation qui est prise en charge par les deux parties, éducation nationale et CNFPT.
Alors comme ça a l'air, vous l'entendez, hein, totalement idyllique. On met en place, ça fonctionne. En fait, il doit bien y avoir quelques conditions de faisabilité et surtout quelques précautions à prendre pour que ce soit effectif.
Oui, alors on s'est amélioré quand même au fur et à mesure des années. Nous faisons des réunions de bilan chaque année, hein, ce qui nous permet d'entendre certaines choses et puis d'essayer de rectifier. Alors, pour tirer parti de tout ce qui a déjà été réfléchi et fait sur nos territoires, on en est arrivé à se dire pas de lien hiérarchique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On s'était posé la question au départ. Hein, est-ce que l'IEN vient ouvrir les formations? Est-ce qu'il reste un certain temps pour entendre ce qui se dit, pour pouvoir poursuivre la formation? Mais on a pensé, et ça nous a été dit hein, sur les territoires, que ça pouvait être un biais. Donc l'IEN vient ouvrir, hein, il montre tout son intérêt pour les formations, de même que le directeur général des services vient ouvrir pour montrer à ses personnels également que ce travail conjoint est important. Mais ensuite, on laisse les agents et les professeurs des écoles avec les formatrices. Donc pas de lien hiérarchique. Chaque personne présente a droit à la parole, à égalité. Hein, ça, c'est important. Je pense que Carole le dira aussi tout à l'heure. Hein, ce lien professeur des écoles ATSEM, on nous a parlé de binômes tout à l'heure, mais c'est parfois des binômes à construire. Et à certains endroits, ce ne sont pas des binômes. Ce sont des personnels qui tournent, hein, qui ne sont pas toujours dans la même classe. Et ce lien, il est parfois à construire. Les agents doivent être entièrement déchargés de travail. Donc ça, c'est important aussi, qu'on ne se retrouve pas vers 11h avec des agents territoriaux qui se demandent s'ils vont arriver à temps pour prendre en charge leur service de cantine, par exemple. Donc ça fait partie du cahier des charges qui est signé par la collectivité territoriale. L'agent est libéré de son temps de travail sur la journée. C'est une réelle journée de formation. Répondre aux besoins du terrain, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on arrive avec une formation que l'on plaque sans avoir tenu compte des besoins du terrain, ça peut parfois être mal reçu, ça peut être compliqué. La formation conjointe fait partie d'un continuum, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus nous faisons de réunions de bilan, plus nous avons une expérience dans ces formations, et plus les participants sont en général assez satisfaits, mais on nous dit que c'est trop court, et que une formation un an, s'il ne se passe rien ensuite, si on n'est pas sur un plan pluriannuel de formation, ben c'est rester un peu sur sa fin. Hein. Donc, engager la réflexion avec les collectivités, c'est ce que disait Thierry Vasse ce matin, hein, le travail de l'IEN de circonscription et de la collectivité territoriale, c'est peut-être d'envisager des prolongements et pour nous, en termes de pilotage départemental ou académique, de prévoir des contenus qui pourraient permettre de prolonger ce premier temps de formation. Donc en fait, ça met en appétit, mais il faut aussi avoir les moyens en formation hein, pour pouvoir continuer. Et puis, quelque chose qui est majeur, et ça va transparaître dans les contenus qui vont vous être présentés, ce sont les besoins de l'enfant qui doivent être au cœur de la réflexion. Parce qu'on sait tous qu'il y a des difficultés qui naissent des conditions de travail de chacun et de la volonté de replacer parfois l'adulte. L'adulte voudrait ceci, voudrait cela, ou voudrait des pauses à tel moment, etc. L'idée, c'est de travailler ensemble à ce que sont les besoins des enfants et essayer d'y répondre au mieux tout en prenant en compte le bien-être au travail de chacun des adultes.
Alors Annie vient de dire, et on comprend bien pourquoi, pas de lien hiérarchique pour toutes les personnes présentes à la formation. Du coup, ça rend encore plus important la nécessaire concertation des cadres, cadres territoriaux, cadres de l'éducation nationale, voire la formation commune, parce que ça serait quand même dommage qu'au niveau local, on ait un partage de représentation et de fonctionnement, et qu'au niveau des cadres, on ne l'ait pas. Alors mesdames, vous avez assuré donc ces formations. Ce qui est compliqué pour nous dans l'institution, c'est d'aller travailler avec les autres. Nous, nous avons l'habitude de ne pas travailler avec les autres. Et tout à coup, vous nous ouvrez un champ où il va falloir s'adapter. Comment est-ce que vous avez préparé cette formation conjointe venant de deux territoires de responsabilité d'exercice totalement différents ?
Alors, le cahier des charges a été défini avec les représentants de chaque collectivité territoriale en collaboration avec nous, c'est-à-dire Carole et moi-même. Ce travail a permis d'établir un scénario pédagogique répondant aux attentes de chaque structure dans la préoccupation d'une continuité éducative répondant aux besoins du jeune enfant. Et chaque formation est, entre guillemets, sur mesure, bien qu'il y ait un tronc commun. Nous disposons également dans le Pas-de-Calais d'un observatoire de l'école maternelle qui nous est bien utile. En fait, nous effectuons des visites dans les classes de première scolarisation des écoles maternelles de notre département et dans ce cadre, nous rencontrons les acteurs de la communauté éducative, c'est-à-dire les agents, les enseignants, les agents et les parents. Et donc, quand nous rencontrons également les agents, nous pouvons discuter autour des besoins de l'enfant pour une entrée à l'école réussie. Et les agents évoquent souvent également leurs besoins en formation. Donc, c'est aussi un outil qui nous est très utile pour les formations.
Alors, quelques exemples de contenu et de support. On entre dans le cœur de la formation. Là, qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre après donc une réflexion commune, une prise en compte des besoins exprimés par le terrain, un état des lieux?
Alors, au niveau des outils qui ont été utilisés, nous allons principalement nous appuyer sur l'analyse transactionnelle. Donc, c'est-à-dire dans la relation enseignant-agent spécialisé des écoles maternelles. Alors, vous m'entendrez dire souvent agent territorial spécialisé des écoles maternelles et non l'abréviation que tout le monde utilise et je comprends et je respecte. Simplement, si nous souhaitons travailler à la valorisation de cette profession, parce que c'est un réel métier, c'est comment déjà nous allons les appeler par un nom qui nous permet de reconnaître cette spécificité, cette spécialité. Et là, je me tourne vers vous. Donc, l'analyse transactionnelle, c'est bien se dire, en chacun de nous, il y a un parent, un adulte et un enfant. Comme vous l'avez dit, au niveau de l'éducation nationale, il y a ce poids, j'oserais dire, de la hiérarchie et du cadre fonctionnel. Pour les agents spécialisés des écoles maternelles, la question de ce cadre fonctionnel, merci beaucoup, je m'entends. Donc par rapport aux agents, c'est bien cette question de cette hiérarchie. Et l'outil de l'analyse transactionnelle est très intéressant parce qu'il permet à chacun de se situer dans la relation à l'autre. Au travers de cet outil, donc, ça va favoriser l'expression de chacun, parce que l'objectif, c'est bien d'apprendre à se connaître et à se reconnaître chacun dans sa mission, tant au niveau du professeur des écoles maternelles qu'au niveau de l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Parce qu'en effet, il y a cette hiérarchie, mais auprès de l'enfant, il y a deux adultes. Donc, l'un des outils, l'analyse transactionnelle. Donc, au niveau des autres outils que nous utilisons généralement, nous utilisons tout simplement un tableau qui reprend le déroulé de la journée à partir du petit matin, et je précise bien à partir du petit matin, jusque fin de journée. Le fait de compléter ce tableau permet aussi à chacun de se rendre compte de ce que l'autre fait dans les coulisses, c'est-à-dire l'importance des temps informels, ces temps qui ne sont pas spécialement des temps auprès des enfants, mais qui sont des temps nécessaires au bon déroulement. Et la question de la concertation, de l'échange entre l'agent et l'enseignant, sont des moments essentiels qui soit se font selon les environnements au-dessus de la tête des enfants, entre deux portes ou à la va-vite. Et donc c'est vraiment prendre en considération ce temps et ce tableau. Eh bien, il est très intéressant parce qu'il permet à chacun. Alors, on prenait ce midi, comme j'ai les oreilles qui traînent un peu, j'ai entendu quelqu'un dire à quelqu'un d'autre : mais ramasse ton plateau, on n'est pas au restaurant. Et là, la personne a dit : ah bah oui, c'est vrai, mais il y a peut-être des ATSEM qui vont passer. Si je prends cet exemple ce midi, était-ce de l'humour ou pas ? Chacun l'entendra comme il le souhaite. Toutefois, si je prends cet exemple, qui est tout frais, c'est que parfois vous avez des agents qui s'octroient la posture de dame de service et qui vont aussi parfois nettoyer les tasses qui sont dans l'évier, prendre en charge ce qui n'est pas de leur ressort. Ce n'est pas de l'intention des enseignants de les utiliser comme femmes de ménage, mais c'est aussi, pour certaines personnes, la place qu'elles trouvent, parce qu'elles vont avoir ce côté gestion de l'entretien, de l'environnement. Toutefois, ce matin, nous parlions du cahier de la charte, pardon. Ce tableau est très intéressant, parce que c'est en le remplissant que certains professeurs des écoles maternelles ont dit, par exemple, à des agents : mais j'attends pas ça de toi. Et donc c'est la question de se connaître, de se reconnaître, parler ensemble, se concerter et reconnaître que chacun a bien un rôle auprès de l'enfant, et je dis bien auprès de l'enfant, et non pas auprès des adultes environnants. Il n'y en a pas un qui est là et un qui est là pour faire le ménage. Ça, c'est à côté. Et là, je vais en terminer sur ça. Dans certaines communes, certains agents vont être attachés à la filière technique. Dans d'autres communes, les agents seront rattachés à la filière animation, enseignement, et rien que ça, c'est essentiel. C'est-à-dire déjà être reconnu par sa commune, mais aussi et surtout par les élus. Parce que dans une commune, il y a un DGS, mais il y a aussi une équipe municipale. Et donc, nous ne pouvons pas le déconnecter du politique, sachant que ces mêmes agents vont être évalués chaque année, et que la note de leur évaluation aura un impact sur leur prime. Donc il faut vraiment mettre les choses dans le contexte, parce que ce n'est pas toujours facile non plus d'être agent avec cette hiérarchie bicéphale, fonctionnelle, administrative. Je suis notée par qui ?
Alors effectivement, on voit bien le poids symbolique du rattachement au technique ou à l'éducatif. Et du coup, ça nous permet de faire une petite transition sur cette diversité de public. Pour nous, c'est une première de mettre ensemble, dans la même formation, des agents territoriaux et des enseignants, étant entendu que dans chacune de ces catégories de personnes, il y a une très grande variabilité de compétences, d'ancienneté, d'expérience, de conception. Donc comment est-ce que vous vous y êtes pris pour construire un collectif enseignant avec des gens qui se parlent et qui apprennent à se connaître et à se reconnaître? Comment vous avez perçu cette diversité de public et comment vous l'avez gérée?
Donc, tout d'abord, la diversité des participants est une réelle richesse parce qu'elle permet, au travers des expériences vécues, de croiser les regards, tout en favorisant l'évolution des gestes professionnels de chacun, et puis des pratiques professionnelles individuellement ou collectivement dans la relation et la posture auprès du jeune enfant.
Donc, par rapport justement à cette diversité des publics, j'oserais dire, c'est... un outil qui est très sympathique, je dirais, ce sont les mises en situation. Donc, les mises en situation, c'est prendre la place de l'autre. Il y a une émission de télé qui s'appelle « Vie ma vie ». Je pense que c'est vraiment un outil merveilleux parce que ça se passe de commentaires. Se rendre compte de la difficulté pour un enseignant de répondre au programme de l'éducation nationale avec une diversité d'enfants. Mais aussi se rendre compte des agents qui travaillent dans un contexte où très souvent ce sont des femmes, majoritairement, et aussi des personnes qui courent, mais qui courent du matin, pour certaines, 7 heures, au soir 18h30, voire 19h. C'est-à-dire que ce sont des journées continues sur des sites différents. Lorsque l'on évoque pour les enfants le besoin de sécurité affective, et nous nous appuyons d'ailleurs sur une vidéo de Catherine Guéguen qui s'intitule, si cela vous intéresse, « Et si on changeait notre regard sur l'enfant ?» Nous nous appuyons sur cette vidéo par rapport à la question du cortex préfrontal. Quand ce cortex préfrontal est disponible aux apprentissages, c'est parce que sur le plan émotionnel, il est pris en compte dans la sécurité affective de l'enfant. Ça vaut pour l'enfant, mais ça vaut aussi pour nous adultes. Et donc les conditions de travail, le nombre d'enfants dans les classes, l'agencement, tous ces éléments qui peuvent être périphériques, dirons-nous, sont essentiels pour le bien-être de l'enfant, puisque c'est bien ce qui est au cœur du sujet. Mais pour que l'enfant se sente serein, il faut que les adultes, enseignants, agents, se sentent également sereins. Donc là, vous avez...
Donc, également comme contenu, nous utilisons cette marguerite que nous avons donc élaborée avec Carole pour aussi répondre à ce que M. Vasse a dit ce matin, c'est-à-dire une connaissance des programmes. Et donc là, on met au cœur, pour que l'enfant grandisse, l'enseignant et l'agent peuvent, et nous reprenons les éléments du programme pour que chacun connaisse aussi les éléments. Donc une école qui tient compte du développement de l'enfant. Comment prendre en compte les besoins physiologiques de l'enfant? Comment garantir le respect du rythme de l'enfant au sein d'un collectif? Comment aider l'enfant à construire le langage? Comment l'aider à agir dans une école qui organise des modalités d'apprentissage spécifiques à l'école maternelle? Une école qui accompagne les transitions vécues par l'enfant, donc comment accompagner l'enfant dans la séparation, tant à l'arrivée qu'au départ de l'école, et favoriser son bien-être à l'école maternelle. L'enfant se construit comme une personne singulière au sein d'un groupe, donc comment apprendre à l'enfant à trouver sa place au sein des autres et accepter autrui. Donc nous travaillons sur cette marguerite. Alors tous nos contenus sont toujours pour échanger, pour favoriser les échanges et l'interconnaissance des métiers.
Pour faire le lien donc avec cette marguerite, nous nous appuyons également via l'Observatoire de l'école maternelle dans le Pas-de-Calais sur la place des parents. Parce que pour que cette séparation, pour que ce temps d'adaptation et le rapport à l'instruction puissent se faire, il faut aussi que les parents soient sereins. Et donc c'est toute la question de la place du partenariat. Donc vous évoquiez comment s'ouvrir et comment est-ce que nous travaillons. Dans certaines communes, il y aura les dispositifs ou les programmes de réussite éducative avec leurs coordinateurs qui seront présents parfois. Et c'est comment dire, voilà, comment œuvrer tous ensemble autour des enfants, en bonne intelligence. Et donc, la question de la place des parents est essentielle. Parce qu'on ne peut pas imaginer instruire un enfant sans prendre en compte son environnement familial. Parce qu'il y a deux poids, deux mesures pour certains enfants, selon les cultures. Alors, lorsque je parle culture, ce n'est pas uniquement les cultures liées au pays d'origine, mais bien la culture familiale.
Alors, pour terminer sur ce sujet précis, et sans langue de bois, est-ce que vous pouvez faire un premier bilan de cette troisième année de mise en œuvre de formation conjointe, les points d'appui, ce qu'il faut améliorer, voilà. Quel bilan vous tirez, vous pouvez tirer de ces presque trois années de formation conjointe?
Alors, par rapport à ces trois années qui ont évolué, alors Nord et Pas-de-Calais, hein, puisque c'est vraiment la région du Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'il est venu répondre à un besoin. Le premier besoin, c'est le besoin d'être écouté, tant pour les enseignants que pour les agents. Donner une place à leurs paroles, se sentir entendu, se sentir reconnu dans les difficultés du quotidien. Selon les communes, alors lorsque nous démarrons une formation, et ça c'est aussi un outil de nos formations, c'est que nous démarrons par un tour de table. Alors ce n'est pas un tour de table où chacun donne son prénom, son nom et la commune où il travaille et son poste, mais c'est un tour de table où chacun a un temps de parole. Et ce n'est pas un tour de table qui se fait clac, 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 mais voilà, dans le respect du rythme de chacun. Puisqu'on parle bien du rythme de l'enfant, il y a aussi le rythme des adultes. Parce qu'il y a des personnes qui prendront la parole aisément, et il y a des personnes qui seront plus en retrait. Et le rôle des formatrices, c'est d'être attentive à ça. Être attentive au bien-être des adultes présents pour libérer la parole. D'où le fait qu'il n'y a pas de supérieur hiérarchique. Est ressorti principalement un besoin de concertation, c'est-à-dire des temps d'échange entre professionnels pour pouvoir évoquer une situation d'un enfant, évoquer, je reprends un exemple concret d'une formation où dans le déroulé de la journée, l'enseignant avait prévu, alors bon, je me permettrai de le souligner, ça se passe aussi en France. Il y a des enseignants qui font des activités avec un bac à sable. Voilà. Hein. Et donc l'enseignant avait programmé cet atelier le matin. Et l'agent râlait parce que après l'atelier sable, il fallait nettoyer. Eh bien, cette formation a permis à l'agent de le dire et à l'enseignant de l'entendre. Et ça, au niveau de l'épuisement de l'agent, c'est essentiel. Parce qu'en effet, les personnes recrutées sur ces postes, ça a souvent été l'objet de recrutement social, comme ça a été dit au départ. Pas toujours. Oui, c'est un métier qui se professionnalise. Et tout à l'heure, vous verrez au niveau du CNFPT l'itinéraire qui est proposé aux agents par rapport au développement de l'enfant, la connaissance de l'enfant. Ce sont des éléments qui sont essentiels parce que l'épuisement au travail, que ce soit pour un agent, que ce soit pour un enseignant, permettez-moi de dire, c'est l'enfant qui trinque. Parce que lorsque l'on est fatigué, on n'est pas disponible, on n'est pas attentif, mais ça peut se comprendre. Surtout quand on parle de l'école inclusive avec des enfants à besoins particuliers, entre autres.
Alors, merci. On a beaucoup de chance parce que une ATSEM et une enseignante qui ont suivi les formations nous font le cadeau. Nous font le cadeau de venir nous parler de ce qu'elles ont vécu en formation. Contrairement à nous toutes, elles n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public. Il va donc falloir beaucoup d'attention de votre part pour qu'elles puissent nous dire ce qu'elles ont à nous dire. Donc vous, vous avez participé à ces formations conjointes, une grande première.
Une première.
Comment est-ce que vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça a pu vous tracer comme perspective? Qu'est-ce que vous avez fait comme rencontre, comme découverte? C'était quoi votre vécu?
Alors déjà, c'était une chance d'être prise pour cette formation. Donc je n'ai jamais fait de formation donc, avec mon institutrice. C'était une première, surtout à l'inspection. Je n'ai aucun contact avec l'inspection nationale, donc l'éducation nationale, c'était une première pour moi. Les locaux, rencontrer donc les formatrices, les différentes personnes. La formation, ça m'a beaucoup apporté.
Vous étiez volontaire ?
On a été prise comme ça. Il fallait juste une ATSEM, une enseignante dans l'école, et on a été prise comme ça pour faire cette formation, donc obligatoire. Donc, on est allé à cette formation, enfin sans souci, hein, c'était une formation obligatoire, donc mais très intéressante. C'était justement une première. Donc
peut-être que on peut. Et dans les formations, les IEN sur le territoire, avec les élus, ont le choix de proposer une équipe d'école avec donc plusieurs enseignants et plusieurs ATSEM qui travaillent ensemble au sein d'une même école. Mais le choix qui avait été réalisé sur ce territoire-là, c'était des représentants par école, puisqu'il y avait beaucoup d'écoles sur la commune. Donc des représentants, des binômes PE-ATSEM de plusieurs écoles qui étaient ensuite censées retransmettre un peu les contenus de formation pour essaimer au sein des écoles. Hein. Donc c'est ce qui explique le choix et le fait que madame soit la seule ATSEM de son école à avoir été présente à la formation, et elle y était présente avec des collègues de la ville de Breuil.
Oui.
Alors comment ça s'est passé ?
Eh ben, très bien. très bien. Donc on a appris plein de choses. Surtout, ça nous a permis, enfin moi ça m'a permis d'entendre la même chose au niveau de l'inspection, ce qu'on peut dire à mon institutrice. Donc moi j'ai pu l'entendre aussi. Donc comme ça on peut partager le même cadre au niveau de l'enseignement, au niveau des enfants, on peut entendre la même chose. Et donc c'était très bien.
Et vous ?
Donc moi aussi je l'ai vécu positivement. Pour ma part, je trouve que c'est une chance de pouvoir échanger avec des collègues parce qu'on a peu d'occasions de discuter sur notre niveau de classe, sur les élèves, sur nos pratiques de classe. Donc c'était une bonne opportunité. Ensuite, j'ai trouvé que c'était une chance également de pouvoir être à cette formation avec l'ATSEM qui travaille dans ma classe, qu'elle puisse entendre le même discours que l'on a pu entendre lors des formations, qu'elle puisse comprendre pourquoi j'ai aménagé la classe de cette façon, pourquoi je change mes coins-jeux régulièrement, pourquoi j'agis aussi de cette façon-là avec les élèves, c'est-à-dire les notions d'empathie, de bienveillance, qui pour nous semblent évidentes et qui ne le sont pas forcément... Pour les agents qui n'ont pas eu les formations préalables. Donc cette formation était vraiment une belle opportunité et elle devrait être d'ailleurs élargie et à tous les niveaux de classe et puis dans d'autres circonscriptions également, oui.
Est-ce que vous avez pu réinvestir un certain nombre d'éléments de cette formation dans votre pratique conjointe au quotidien, que ce soit auprès des élèves ou auprès des parents d'élèves, de retour de la formation?
Oui, bien évidemment. Donc on était habitués à fonctionner on n'a pas eu de surprise en fait, de grosse surprise. On était déjà habitués à fonctionner de cette manière-là. On a eu une réflexion par la suite sur notre attitude bienveillante, sur le fait de que ce soit nous à changer notre regard sur l'enfant et non pas l'inverse. Le fait de...
On est encore plus bienveillante. Oui, ouais, sur les comportements. On fait plus attention sur les comportements des enfants. On prend plus, enfin, moi, je prends plus de temps à les observer. C'est vrai que durant les ateliers, je suis moins... Enfin, je suis un peu moins speed, donc l'atelier est peut-être moins cadré, je laisse plus les enfants s'exprimer, être acteur de l'atelier, et je les regarde plus, je les observe un peu plus, bien que je le faisais, je donnais un compte-rendu à madame, tout ça, mais on est un peu plus, je lâche un peu prise par rapport à l'encadrement de l'atelier, voilà.
Et vous, est-ce que vous avez changé votre façon de travailler avec votre ATSEM ?
On avait quand même une...
On travaillait déjà bien ensemble.
On travaille ensemble depuis 7 ans, donc on est assez complémentaires et On a simplement ajusté certaines choses et puis mis l'accent sur d'autres aussi. Le lâcher prise, effectivement, on a essayé de le mettre en place un peu plus, être moins à cheval sur l'emploi du temps et observer un peu plus les enfants et leurs réactions, les maternées d'autant plus. Voilà. Et cette formation a permis aussi de mettre l'accent sur le relationnel avec les parents, l'aide à la parentalité, leur expliquer la façon dont ils devaient agir avec leur enfant, leur mettre des mots sur leur attitude, leur dire d'expliquer à l'enfant pourquoi il doit le laisser à l'école et puis bien lui expliquer qu'il viendra le rechercher le midi, donc les aider par rapport à ça, au fait aussi de leur demander de les poser par terre quand ils doivent entrer en classe, ne pas les garder à bras, et puis qu'on ait l'impression de devoir les arracher à leurs bras. Donc des petites choses comme ça qui nous ont servi, qui nous ont été utiles.
Et alors, Annie Cerf disait tout à l'heure que un certain nombre de binômes enseignants ATSEM ont été choisis pour venir à cette formation, un peu comme les poissons pilotes et de retour dans leur école, avec comme mission de retransmettre. Est-ce que vous avez pu partager avec vos collègues ATSEM, vous, ce que vous avez appris? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué?
Oui, alors donc j'ai partagé avec ma collègue qui travaille aussi chez les tout-petits-petits, parce que nous avons deux classes de tout-petits-petits dans la classe. Dans l'école, pardon. Mais enfin, c'est vrai que tout le monde, toutes les classes de tout petit petit devraient faire cette formation.
Pourquoi spécialement les tout petits petits?
Enfin, toutes les sections. Bon, après, il y a moins d'ATSEM chez les grands. Mais pour travailler dans la bienveillance, dans l'empathie, parce que enfin, nous, on n'a pas de... C'est vrai que formation sur le jeune enfant, moi j'en ai eu une en 2014. Donc... on est encore dans les anciens textes, nous. Donc, il faut se former nous-mêmes. Il faut essayer avec le CNFPT, faire les formations. Mais il faudrait vraiment que ça soit obligatoire tous les ans. Il faudrait faire une formation, justement, sur le jeune enfant, sur la bienveillance, parce que j'ai une collègue plus âgée, donc elle n'a peut-être pas la même notion, la même vision des choses moi plus jeune, quoi.
Et alors maintenant que vous l'avez vécu, donc vous avez vécu les 10 heures de formation, oui, telles qu'évoquées précédemment, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Si vous aviez des pistes d'amélioration à suggérer, des modifications pour la future cohorte d'enseignants et ATSEM qui vont venir en formation, qu'est-ce que vous pourriez proposer?
Donc justement, il faudrait étendre la formation à toutes les sections, tous les enseignants, tous les ATSEM, parce que il faut faire une formation enseignant ATSEM, il faut en faire, on n'en a jamais eu. Et ensuite, il faudrait au niveau des ATSEM qu'on ait plus de temps de communication avec l'enseignant, parce que nous on n'a pas vraiment le temps de parler, donc enfin nous on le fait vraiment entre deux en tant que classe. Mais on n'a pas vraiment de temps d'échange, parce que moi, je fais la garderie, je fais la cantine. Donc, je suis sur tous les fronts, en fait. Donc, on n'a pas vraiment de temps de concertation. On se parle entre deux portes. Donc, c'est pas évident. Quand on fait un compte-rendu sur les enfants, on le fait, mais c'est toujours entre deux portes. Donc, on devrait avoir plus de temps, nous, en tant qu'ATSEM, de concertation, ou, comme on disait ce matin, avoir du temps sur... notre temps de travail, nous déléguer des heures de concertation ou pouvoir participer au conseil d'école. Moi, je ne peux pas participer au conseil d'école parce que j'ai toujours eu une autre tâche à ce moment-là. Donc, il faudrait justement améliorer ça.
Et vous, qu'est-ce que vous suggéreriez comme amélioration?
Ben, un peu la même chose que ma collègue. Étendre la formation aux autres collègues de l'école déjà pour commencer et généraliser ces formations, pouvoir avoir du temps également pour échanger ensemble, oui.
Alors là, sur le temps de concertation, je me retourne vers l'IUN maternelle parce que quand même, quand vous dites qu'il nous faudrait des temps de concertation, Vous savez bien que là, vous ne renvoyez pas à la formation, mais à votre employeur, au cadre qui régit le travail que vous mettez en œuvre. Et donc, comment est-ce qu'on peut commencer à piloter des transformations au niveau d'un département dans le dialogue avec forcément les partenaires locaux ?
Alors, c'est la question que nous nous sommes posées et peut-être une piste à penser pour les années à venir. C'était, au départ, on s'est dit des formations conjointes, elles vont s'adresser à qui ? Est-ce qu'elles s'adressent directement au binôme professeur des écoles agent ou est-ce qu'elles touchent des binômes inspecteurs de l'éducation nationale ou plus largement équipe de circonscription avec le directeur des services ou des personnes qui travaillent à la mairie et qui ont en main l'organisation du service des agents ? Parce qu'une fois qu'en formation, on a entendu dire qu'il fallait se concerter, qu'il fallait des temps de participation au conseil d'école, qu'il fallait partager. Si derrière, l'organisation du travail n'évolue pas, on peut en rester là. En fait, il y aura blocage par rapport à ce qui a été préconisé en formation. Donc, nous y avons réfléchi. Pour l'instant, on ne propose pas de formation d'encadrement. Hein. Thierry Vasse l'a évoqué ce matin. Il l'a évoqué au niveau national, mais pourquoi ne pas proposer ces formations-là aussi au niveau local ou au niveau d'un bassin d'éducation ? Donc, nous avons commencé à y réfléchir. C'est peut-être une des pistes d'évolution, non pas à faire à la place d'eux, hein, mais conjointement, des formations de binômes d'école et puis des formations de binômes d'encadrants, on va dire, au sens large du terme. Parce qu'il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là. Et peut-être que ça permettrait de pérenniser les actions sur un plus long terme, de construire des parcours de formation et d'être plus dans du pilotage. Plutôt, à ce moment-là, comment piloter les collaborations plutôt que de comment les mettre en œuvre.
Alors, mesdames, du point de vue de la formation, vous avez... Pardon, je n'avais pas vu ce que vous aviez affiché, mais je vais quand même vous poser ma question. Vous avez assuré pendant 3 ans une formation... La première formation 10 heures. Si on imaginait, puisque les collègues disent qu'il faudrait continuer, autrement dit, il faudrait faire une espèce de formation un tout petit peu filée sur le temps pour approfondir, comment penser avec le même public une suite de formations, avec quel type de contenu, quelle modalité d'approfondissement ?
Après les 6 premières heures de formation, on va dire la journée, on fait ensuite de l'analyse de pratique. Et donc on part d'études de cas que l'on propose pour travailler ensemble, mais on part également de la réalité, c'est-à-dire des situations vécues réellement par les enseignants et les agents. Et je pense que ça, c'est quelque chose à poursuivre parce que c'est ce qui apporte, on va dire, un vrai retour sur la formation et aussi des perspectives de travail. Toi,
Carole, est-ce que... Du pratico-pratique. Ouais, voilà, c'est vraiment partir de situations rencontrées par rapport, par exemple, à des comportements d'enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous soulignons lors des temps de formation. Je peux changer ce que je fais, je ne peux pas changer ce que je suis. Et donc, nous travaillons beaucoup, justement, autour du langage, tant pour les agents que pour les enseignants. Lorsque, par exemple, un enfant sera qualifié de fatigant, saoulant, hyperactif ou je ne sais quoi, c'est plutôt de dire à l'enfant, ben voilà, ton comportement, voilà ce qu'il produit chez moi, c'est pas toi, c'est ton comportement. Je peux changer ce que je fais, pas ce que je suis. Et déjà ça, au niveau du langage de l'ensemble des adultes qui évoluent autour des enfants, c'est essentiel. Pour prendre un autre exemple, la semaine dernière, dans une formation où un professeur des écoles a dit « Je me sens moins autoritaire ». Et alors, c'était très intéressant l'exemple qu'elle a pris, puisqu'on est parti d'une situation vécue. C'est dans l'apprentissage par rapport à l'écriture, où elle disait que très souvent, elle arrivait derrière l'enfant, elle lui prenait la main et elle faisait avec lui. Tout comme il est préférable de dire à l'enfant « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Mais en tout cas, le prévenir. Et un exemple très criant, dans les conduites d'adultes, j'oserais dire d'adultes en tout genre, hein, que ce soit même les parents, c'est très fréquemment un adulte, lorsqu'il voit le nez d'un enfant couler, que fait-il ? Eh bien, imaginez-vous un seul instant que vous fassiez la même chose à votre voisin, comme vous le faites à un enfant.
Eh bien, c'est toute la question, comme le disait Françoise Dolto, l'enfant est une personne. L'enfant n'est pas un objet. Et oui, en effet, si je le mouche, c'est parce que j'estime qu'il en a besoin, mais à la fois, je vais lui en parler avant. Alors oui, après se pose la question du nombre d'enfants, du nombre d'adultes, de la disponibilité ou de l'indisponibilité, mais n'oublions pas, l'enfant est une personne et c'est le citoyen de demain.
Alors, à partir, je vais vous laisser présenter et puis je vous propose ensuite de nous dire, à partir de cette première expérience, quelles perspectives vous pouvez tracer pour la suite. D'abord, vous êtes un binôme de formatrices, mais je suppose que vous n'êtes pas le seul binôme de formatrices pour toute l'Académie de Lille. Donc, quid de la formation des formateurs qui interviennent sur ces formations conjointes? Quid du relais, comme Annie Cerf a parlé tout à l'heure de la prise en main de la formation par l'UN de circonscription et des négociations. Donc, quid de la suite du point de vue des formations?
Valérie m'a donné le micro sur la question. Non, parce que c'est... Mais je lui repasserai après. En fait, c'est la question qui se pose. Je disais, tout le monde veut maintenant des formations. Vous avez entendu le binôme le dire également. Hein, même si on a donné une formation sur un territoire qui concernait 20 personnes, évidemment, on n'a pas couvert toutes les écoles. Donc, on se trouve face à un besoin de formation important. Donc, ce que nous avons pensé à faire l'année prochaine, c'est de la formation de formateurs. Puisque nous avons la chance d'avoir un réseau de formateurs maternels dans le département. Valérie, donc, est conseillère pédagogique départementale, elle va travailler avec ses collègues, moi également. On va proposer des contenus de formation, on va essayer de diffuser ce qu'on a tenté de faire passer aujourd'hui dans un temps très court, parce que ça n'est pas n'importe quelle formation, hein. Ça n'est pas l'habitude des formateurs éducation nationale de former de cette manière-là. Donc il y a aussi une professionnalisation de nos formateurs à envisager, donc de la formation de formateurs. Mais il nous faut à tout prix des relais territoriaux. Je sais que dans le département du Nord, Sylvie a déjà agi un petit peu de cette façon, parce qu'ils sont encore plus nombreux que nous. Et donc, se pose toujours la question des ressources humaines en formation. Donc, pour l'an prochain, notre projet, c'est la formation de formateurs. Et le CNFPT, lui, il s'engage, hein, puisqu'il a recruté d'autres formateurs. Il n'y a pas que Carole, hein, il y a des homologues. Et puis, nous proposons également un autre type de formation, qui est formation sur les continuités entre structures petite enfance et école maternelle. C'est ce qu'a évoqué Thierry Vasse ce matin sur les continuités. Et donc, le CNFPT a deux types de formatrices, hein, les formatrices sur les formations PE agents et puis les formatrices qui agissent sur les formations sur les continuités éducatives. Mais le CNFPT m'a informé aussi qu'un partenariat est en place aussi, une réflexion au niveau national, et ils vont développer, ils ont le projet et ils ont une priorité sur le développement de ce type de formation. Donc je pense qu'ils vont nous aider aussi pour renforcer les binômes en territoire, et ça ne sera pas toujours au niveau du département, ça sera peut-être plus organisé au niveau du territoire. Peut-être vous passez la parole sur les prolongements.
Alors, en effet, au niveau du CNFPT, vous avez donc un parcours sur le catalogue de formation 2019 avec les objectifs donc qui sont évoqués, acquérir les fondamentaux du métier, accompagner les enfants accueillis dans leur développement et trouver sa place au sein de la communauté éducative. Donc, ce parcours, cet itinéraire de formation comprend différents modules et l'objectif, c'est vraiment de tendre à la professionnalisation des agents. Alors, oui, pour certains agents, malheureusement, ils sont victimes dans cette évolution du métier, du recrutement de départ, parce que ce n'est pas ce qui était demandé au départ pour travailler auprès des jeunes enfants. Et c'est vrai que pour certains agents, c'est difficile aussi à vivre. Bon, contrairement à vous qui êtes... j'oserais dire surdiplômée de la petite enfance.
Oui, bah donc j'ai un CAP petite enfance, un BEP sanitaire et social et un bac sciences médico-sociales. Donc j'ai passé mon concours, donc je l'ai obtenu et j'ai eu la chance de faire une formation d'intégration suite au concours qui ne se faisait pas avant. donc et formation de professionnalisation et cette formation donc sur le jeune enfant que enfin j'ai eu une formation sur le jeune enfant en 2014 mais pas depuis donc c'est bien de revoir
des piqûres de rappel
les nouvelles piqûres de rappel.
Alors même au sein de la mission hein, il y a un décalage parce qu'il y a des personnes qui font fonction. Oui. Il y a les personnes qui sont agents spécialisés des écoles maternelles. Et après se pose la question, j'oserais dire, des supérieurs hiérarchiques, selon les filières et leur formation également, pour la reconnaissance d'une continuité éducative et d'une réelle mission auprès de l'enfant. Donc au niveau du CNFPT, oui, ça a démarré donc au départ avec un binôme sur le Pas-de-Calais, avec Valérie et un autre binôme avec Chantal Adamski qui est quelque part là-bas pour le Nord. C'est vrai que depuis le démarrage sur cette partie-là, agent enseignant, j'étais l'unique formatrice, mais je ne suis pas irremplaçable et heureusement. Et l'objectif, c'est bien de déployer et de faire partager au maximum.
Alors on voit bien l'aspect systémique quand même avec former les formateurs, ça a l'air de devenir très rapidement une priorité, et puis aussi organiser les communications à tous les échelons, les cadres intermédiaires et les agents sur le terrain, qu'ils soient Éducation nationale ou ATSEM.
Je pense bien sûr également que le binôme est très important parce que nous n'avons pas le même métier et c'est vraiment une richesse aussi de travailler ensemble parce qu'on s'apporte beaucoup et on apprécie vraiment le regard croisé. Et puis je pense que les stagiaires le disent également, on sent bien que vous êtes en cohérence, on a le même discours mais en même temps dans les spécificités de chacune. Et ça, je pense que c'est une grande richesse de travailler avec Carole en binôme.
Très bien. Je crois que nous avons fait le tour des interventions que les unes et les autres voulaient faire.